Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la France renforcent leur coopération en matière de développement urbain durable. Les trois pays producteurs de coltan mondiaux ont convenu de limiter le prix. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche relance la pisciculture à Pandeglang. Les efforts du Bureau de tourisme de Java Oriental pour stimuler le tourisme halal. Le charme de Baunyale attire les touristes étrangers à Lombok. Le ministre Puan a invité toutes les parties à soutenir le développement de l'industrie du Jammu. Et enfin, le commandant de la TNI est prêt à ajouter des troupes pour gérer les incendies de terre et des forêts. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics et du Logement, continue de resserrer sa coopération avec le gouvernement français en matière de développement urbain durable. Selon le communiqué de presse du ministère des Travaux publics et du Logement, cité par Antara à Jakarta dimanche, cette coopération a débuté de la signature de l'accord de coopération dans le domaine du développement urbain durable le 29 mars 2017 par le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, M. Basuki Hadi Mulyono, et le ministre français de l'Industrie et de la Numérisation et de l'Innovation, Christophe Sirouk. Cela a été suivi par la tenue de la 11e réunion du groupe de travail conjoint France-Indonésie sur le développement durable à Jakarta en octobre 2017. Afin d'évaluer la mise en œuvre des résultats de la première réunion et de préparer le renouvellement du plan d'action 2019-2020, on a tenu la deuxième réunion en France le 20 février. Afin de réduire les prix de coltan qui étaient restés bas en 2018 jusqu'au début de cette année, les trois plus grands producteurs mondiaux de coltan, à savoir l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, prévoyaient de limiter les exportations de coltan à 300 000 tonnes. Ces trois pays représentent environ 70% de la production mondiale de coltan naturel. Par conséquent, par l'intermédiaire du schéma de tonnage à l'exportation convenu organisé à Bangkok, en Thaïlande, il y a quelque temps, les trois pays ont convenu de limiter les exportations de produits en coltan afin de soutenir les prix mondiaux du coltan. Kansan Muhri, directeur de l'Agence pour l'évaluation et le développement du commerce du ministère indonésien du commerce, cité par Republika Online, a déclaré dimanche que la lutte de l'Indonésie pour la mise en œuvre du schéma de tonnage d'exportation convenu avait été fructueuse après des négociations assez difficiles entre les pays. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche a fourni une aide sous forme de 35 000 grains de poisson chat et 1,4 tonnes d'aliments pour poisson et d'un paquet de 9 produits de base aux 160 benas à Pandeglang, Banten. C'est ce qu'a déclaré M. Slamet Subjecto, le directeur général de l'aquaculture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, dans un communiqué de presse publié par Antara à Jakarta dimanche. Le directeur général de l'aquaculture a remis l'aide qui était récemment centrée au village de Mataram, le district de Charita, dans la région de Pandeglang. L'assistance fait partie du plan du ministère des Affaires maritimes et de la pêche visant à relancer les activités aquaculture dans la région de Pandeglang après le tsunami. Cette année, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a l'intention de distribuer entre autres 1,5 million de graines de poissons et de crevettes et de 10 à 15 tonnes de nourriture pour poissons. Le paquet de cultures de biofloc, les ingrédients alimentaires indépendants et l'assistance dans diverses pêcheries, y compris la pisciculture. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère indonésien du tourisme encourage la croissance du tourisme halal dans chaque région. Selon Republika Online, actuellement, il y a 3 régions qui se sont déclarées comme les destinations touristiques halal, à savoir Nusa Tenggara Ouest, Aceh et Sumatra Ouest. La déclaration de soi est nécessaire pour montrer au monde l'identité et la supériorité de chaque région. Le chef du bureau et de la culture du tourisme de la province de Java Oriental, M. Sinarto, a déclaré que son parti continuait de socialiser le tourisme halal à chaque région avec le gouvernement régional. Le pic de la nuit du festival de charme de Baunyale 2019 a eu lieu dimanche. Une série d'activités culturelles ayant de bétandak ou le pantoun réciproque, la musique traditionnelle Cilokak, l'élection de la princesse Mandalika 2019, des histoires dramatiques colossales de la légende de la princesse Mandalika aux autres divertissements. Le pic de l'événement a eu lieu à la place de Seger, située dans la zone économique spéciale de Mandalika, dans la région de Lombok central. Comme indiqué par Republika Online, les touristes nationaux et étrangers ont profité des performances artistiques et de divertissements pour attendre la sortie de Nyale ou des vers colorés. Un groupe de vers colorés qui est confié par les habitants de Lombok comme incarnation de la princesse Mandalika. Un touriste de Bordeaux en France, Sébastien, se sont déclarés chanceux de pouvoir assister à la représentation du festival du charme de Baunyale. Le ministre indonésien de la Coordination pour le développement humain et la culture, Madame Puan Maharani, a invité toutes les parties à soutenir le développement de l'industrie du jamu en tant que produit national de phytopharmace. C'est ce qu'a déclaré la ministre Puan Maharani dans sa déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta récemment. Lors de sa visite de travail à l'Agence de surveillance des aliments et drogues au sein de l'industrie de jamu de la pharmacie Sido Muncul à Semarang, dans l'est de Java, l'efficacité du jamu a été testée empiriquement chez l'homme depuis des centaines d'années en tant que médecine traditionnelle. Différents types de jamu ont également été testés cliniquement. Selon la ministre Puan, le jamu en tant que richesse de l'Indonésie doit continuer à être soutenu parce que cette richesse n'étant pas la propriété d'autres pays. Le commandant de la TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, a déclaré que son parti préparerait et ajouterait des troupes pour protéger les incendies et agir contre les incendies de forêt et de terre à Riau. L'équipement pour attendre les incendies sera également utilisé sur le lieu de l'incendie. Monsieur Hadi Cahyanto à Riau dimanche, dans son communiqué de presse reçu par la Republika Online à Jakarta, a déclaré que TNI ajouterait des soldats à chaque point avec la possibilité d'un incendie pour les protéger. Cela comprend la préparation de l'action à incendie, comme des opérateurs de pompes à eau qui sont des experts pour éteindre les tourbières jusqu'au fond. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Pensez clairement sur la fourniture de l'indemnité de l'Eid al-Fitr 2019 ». Il est encore en février, mais le gouvernement a annoncé la fourniture de l'indemnité de l'Eid al-Fitr 2019 le 5 juin. Le ministère des Finances a confirmé que l'indemnité de congé pour les appareils civils de l'État ou ASN serait versée en mai 2019, conformément à un plan. Sur la base d'informations écrites samedi, le ministère des Finances a annoncé que l'indemnité serait donnée avant l'Eid al-Fitr. La raison est la journée de travail effectif. Les vacances de l'Eid al-Fitr de cette année débutera du 1er au 7 juin. Ainsi, le jour de travail effectif pour les paiements indemnité est le mois de mai. Pour cette raison, le ministère des Finances a encouragé l'accélération de rédiger la réglementation gouvernementale pour le ministère de la réforme administrative et de la réforme bureaucratique en tant qu'institution qui a initié l'octroi des allocations de vacances. Le ministère des Finances espère que la réglementation gouvernementale sera en vigueur avant l'élection du 17 avril. En tant que concours aux élections de 2019, l'annonce du gouvernement a bien sûr été critiquée par le corps de successeurs de nationaux ou BPN du candidat à la présidence M. Prabowo Subianto et Sandiaga Uno. Ils ont estimé que le président Joko Widodo avait délibérément accéléré l'annonce afin d'obtenir un vote à l'élection présidentielle. En fait, ils ont convenu que le mois de mai était le bon moment pour l'indemnité et le 13e salaire. Mais ce qui semble inacceptable, c'est qu'il y a une pression pour que la réglementation gouvernementale sur l'indemnité de l'Eid al-Fitr 2019 a déterminé avant l'élection présidentielle. L'équipe de campagne nationale Jokowi Ma'ruf a demandé à l'équipe de Prabowo de ne pas toujours associer à la politique. L'équipe de réussite de candidat numéro 1 a confirmé l'engagement de Jokowi au bien-être de la société. Selon eux, ils sont payés plus rapidement, c'est bien mieux. L'appareil civil d'État peut se préparer tôt l'Eid al-Fitr. Ce conflit peut effectivement être évité si les deux parties réfléchissent clairement à la mise en œuvre de la prochaine élection présidentielle. Le choix est un droit privé. Les électeurs voteront pour des candidats jugés bons et conformes à leur conscience. Bien sûr, il y a quelque chose de plus important que de simplement remettre en question l'annonce de l'indemnité de l'Eid al-Fitr qui était considérée comme accélérée. Il sera bon que les deux parties discutent de l'indemnité de l'Eid al-Fitr de cette année n'est pas suivie d'augmentation de prix, notamment le prix des produits de première nécessité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 25 février 1964, Muhammad Ali a remporté le champion de boxe de poids lourd du monde. Muhammad Ali, né comme Cassius Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942 à Louisville, au Kentucky. Il est un boxeur légendaire des États-Unis. Il a remporté le titre mondial des poids lourds avec une manche de 7 victoires sur 15 sur les 15 tours prévus pour Sonny Liston en Floride, les États-Unis. Liston a été blessé au cou et s'est retiré du match. Ali a été premier boxeur à devenir 3 fois champion du monde de boxe poids lourd. Muhammad Ali a souvent prononcé son slogan comme un papillon et piqué comme une abeille. Le 25 février 1986, Corazon Aquino a prêté serment en tant que nouveau président des Philippines. Corazon Aquino a prêté serment en tant que nouveau président des Philippines qui a terminé des 20 ans gouvernement de Ferdinand Marcos. Maria Corazon Conjonso Aquino, plus connue sous le nom Corazon Aquino, était la première femme présidente des Philippines de 1986 au 1992 et le premier nazi. Corazon, qui étudie la littérature française aux États-Unis et des études juridiques dans son propre pays, a réussi à devenir le numéro un dans le pays pendant 6 ans et 4 mois. La lutte politique de Corazon ne peut pas être séparée de l'assassinat de son mari, Benigno Aquino Servilano. Il est un homme politique et sénateur pro-démocratique qui a osé de critiquer fermement la dictature du gouvernement Ferdinand Marcos. Le 25 février 1986, Corazon Aquino a prêté serment en tant que nouveau président des Philippines. La lutte pour gagner le pouvoir obtenir le soutien d'une coalition extraordinaire de différentes forces. Cette femme est l'épouse du sénateur de l'opposition populaire Benigno Aquino Jr. Son mari a été tué peu après son atterrissage à l'aéroport international de Manille lors de retour au pays le 21 août 1983. Le 25 février 1991, le pacte de Varsovie est déclaré dissous. Le pacte de Varsovie est une alliance militaire des pays du bloc de l'Est en Europe de l'Est dont le but est d'organiser contre la menace de l'alliance de l'OTAN. La formation du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN par la ratification des accords de Paris. Le pacte de Varsovie a été conçu par Nikita Khrushchev en 1955 et signé à Varsovie le 14 mai 1955. Le 25 février 1991, on a été annoncé que le pacte prendrait fin lors d'une réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 6 pays membres restant en Hongrie. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kau sangat mencintaiku. Di lagu-lagumu kau mau aku yang membawamu pergi. Tinggalkan gelisah, lepaskan galaumu. Hati ini takkan pernah, takkan mungkin menyakiti hati yang dicintai. Hati ini takkan pernah lari meninggalkan cintanya. Dan hari-hari yang berlalu menjadi kenangan terindah. Di dalam cintaku ku mau memberi segala yang ada. Berikan cintamu sedalam ini. Takkan pernah, takkan mungkin menyakiti hati yang dicintai. Hati ini takkan pernah lari meninggalkan cintanya.
sedang menyimpan sedih dari semalam. Hati ini takkan pernah lari meninggalkan cintanya. Cintanya.
Chers auditeurs, c'est la chanson intitulée Hati Ini, chantée par André Hehanusa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée L'Indonésie exporte directement du Mangoustang vers la Chine. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre L'Indonésie exporte directement du Mangoustang vers la Chine. Le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a publié jeudi dernier des exportations de mangoustang de Sukabumi dans l'ouest de Java vers la Chine. L'exportation marque l'envoi d'exportation directe de ces produits d'Indonésie vers la Chine sans transit vers d'autres pays. Les 92 tonnes de mangoustang exportées sont évaluées à 2,76 milliards roupias. La libération de ces exportations a été réalisée lors de l'événement d'appréciation du ministère de l'Agriculture envers la performance de la sécurité alimentaire dans la région de Sukabumi afin de soutenir le programme d'Indonésie visant à devenir le grenier alimentaire du monde en 2045. À cette occasion, Amran a expliqué que l'Indonésie était en cinquième exportateur de mangoustang mondial en tant que pays producteur de mangoustang, après l'Inde, la Chine, le Kenya et la Thaïlande. Environ 25% de la production de mangoustang est exportée vers plusieurs pays, entre autres vers la Chine, Hong Kong, Singapour, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Amérique, l'Australie, la France et les Pays-Bas. Les données de l'Agence centrale statistique ou BPS indiquent que le volume des exportations de mangoustang a atteint 39 000 tonnes en 2018, en hausse de 324% par rapport à 2017 qui ne représentait qu'environ 9 000 tonnes, tandis que la valeur des exportations en 2008 a atteint 474 milliards rupiah, en hausse de 778% par rapport à 2017 dans un montant de 54 milliards rupiah. C'est une très forte augmentation, car l'Indonésie a un accès direct au marché en Chine, à Hong Kong et dans divers autres pays de destination. Le ministre Amran Sulaiman a déclaré que les exportations directes devraient faciliter davantage les exportations et améliorer le bien-être des agriculteurs indonésiens. Il a souligné que le secteur agricole ne couvre pas seulement le riz et le maïs. Il existe environ 460 types de produits agricoles. Le chef de l'agence de la quarantaine agricole, Ali Jamil, a déclaré que le centre de quarantaine agricole de Tanjung Priok avait fourni l'année dernière des services de certification pour l'exportation de mangoustang de plus de 16 000 tonnes, soit environ 448 milliards. De ce nombre, les exportations de mangoustang originaires de la région de Sukabumi ont atteint plus de 2 000 tonnes, soit 66 milliards de rupiah. Pendant ce temps, le directeur général de l'horticulture au ministère de l'Agriculture, Suwandi, optimise l'exportation d'horticulture, en particulier de mangoustang. Pour encourager les exportations, les efforts à faire sont à encourager les plus grands centres de mangoustang, à savoir Java West, Sumatra West, Java East, Bali, Nusa Tenggara West et Banten, à améliorer la qualité du mangoustang et l'enregistrement des jardins. L'aide de graines de mangoustang 2019 est d'environ 211 000 graines. En outre, avec l'Agence de sécurité alimentaire, on formait la maison d'emballage pour répondre au nombre d'exportations. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson en titulé Terkunci, chantée par Adinda Shalahita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.bonus.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'île Molana au Molouk. Chers auditeurs, l'île Molana est située dans le district de Saparua, dans la région de Molucque centrale en province de Molucque. Cette île est un atoll qui se détache à la surface de la mer et devient une belle terre. Le sable blanc s'étend au nord du littoral de l'île, à la particularité de se déplacer en fonction de la saison des vents. Comme par exemple, à la saison des vents d'est, la plage de sable existe à l'ouest. À la saison des vents d'ouest, la plage de sable se déplace vers l'est. Le mouvement massif du sable est présumé se produire car les grains de sable de Molana sont très lisses. Chers auditeurs, l'île de Molana, qui est l'île inhabitée, environ 160 hectares de large. L'île de Molana est bien connue depuis l'ère coloniale portugaise. Sur l'île, il y a la ruine de l'hôpital qui a été construit à l'époque coloniale hollandaise et sa construction a été détruite par l'occupation japonaise. Outre le tourisme historique, l'île de Molana offre également le tourisme maritime avec une beauté sous-marine. Le spot de plongée le plus populaire de l'île est le nord et le sud-est, car il y a une grotte sous-marine reliée à un puits au centre de l'île. L'île de Molana fait partie des îles Léacé au Molucque. Pour vous rendre facilement sur l'île, demandez à l'équipage du navire de venir vous chercher à l'aéroport d'Ambon. Si vous souhaitez vous rendre en bateau rapide à Haïra, depuis l'aéroport de Patimura, Ambon, vous devrez partir avant 7h du matin. De l'aéroport, vous pouvez prendre un taxi pour le port de Tulehu, environ 45 minutes. Ainsi, vous jetez un billet de ferry pour Haïra. Le ferry à partir de Tulehu part habituellement aux alentours de 9h du matin, tous les jours. De Haïra, vous pourrez rejoindre l'île Molana en bateau rapide d'environ 20 minutes. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « L'île Molana au Molucque ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Adi Adrian intitulée Hidup pun indah. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est mon boîte janji ou en français, faire un rendez-vous. Bonne étude. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation dont le titre est mon boîte janji ou en langue française et faire un rendez-vous. Tony est à l'hôtel. Heru, l'ami de Tony habitant à Yogyakarta, lui téléphone pour faire un rendez-vous.
Halo.
Halo, Tony. Besok bisa bertemu?
Tentu, jam berapa?
Jam 4 sore setelah bekerja.
Oh iya, bisa.
Baik, sampai bertemu besok ya.
Iya, sampai besok.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu. En français, demain peut-on rencontrer? Tentu, jam berapa? Tentu, jam berapa? En français, bien sûr, à quelle heure? Jam 4 sore setelah bekerja. Jam 4 sore setelah bekerja. En français, à 4 heures après le travail. Ya bisa. Ya bisa. En français, d'accord. Sampai bertemu besok atau sampai besok. Sampai bertemu besok atau sampai besok. En français, à demain. Pour faire un rendez-vous avec vos amis, vous pouvez demander besok bisa bertemu ou bisa bertemu besok. Bisa bertemu besok, en français, peut-on rencontrer demain? Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Halo.
Halo, Tony. Besok bisa bertemu?
Tentu. Jam berapa?
Jam 4 sore setelah bekerja.
Oh iya, bisa.
Baik, sampai bertemu besok ya.
Iya, sampai besok.
Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. On se retrouvera demain avec d'autres leçons. Merci pour votre attention. À demain.
Hidupmu kau yang menulis kisahnya, oh, oh, cinta. menjadi nyata.
Cher auditeur, setelah Samson a intitulé Mimpimu akan nyata, chanté par Andira. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33.25 kHz et sur le site web www.voice.id. Cher auditeur, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Dans la rubrique du magazine musical, cette édition va vous présenter les informations sur la chanson intitulée « Pamit » ou « Dire au revoir ». La chanson créée par Gesang raconte de quelqu'un qui doit quitter son amant. Ce n'est pas sa volonté, mais c'est en réalité, parce que son amant aime d'autres. Cette chanson est chantée par Bruri Pesolima, ou mieux connu sous le nom Bruri Marantika. La chanson intitulée Pamit, qui signifie dire au revoir, a été chantée en genre pop et ensuite en genre pop de Kronjong. Bon, chers amis, écoutez maintenant une chanson intitulée Dire au revoir, chantée par Bruri Marantika.
Kabarku bila sudah.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you. hatimu tak sudi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.